Ici, la voix de la librairie Québec. C'est Catherine Doré au micro. Je souhaite la bienvenue aux auditeurs de Radio Fiat Lux qui nous écoutent directement sur le web et à ceux de CKIA qui nous écoutent le mardi à 15h30. Aujourd'hui, on va parler d'une période bien importante à laquelle nous revenons toujours, comme s'il s'agissait de l'époque fondatrice de notre monde. Il s'agit du siècle des Lumières. Progrès, individu, raison. C'est ce qui a modelé la venue de la science et des technologies modernes. Les Lumières, aujourd'hui, ça semble presque constituer une nouvelle mythologie. Le mythe du début d'un nouveau temps. Alors, on va tenter avec nos invités de jeter un peu de lumière justement sur ce siècle des Lumières dont on dit tant de choses. Et ensuite, on va terminer l'émission par un volet artistique avec deux invités qui présenteront des événements qui auront lieu à la librairie et à Québec durant le mois. Quand je parle de la librairie, c'est de la librairie Saint-Jean-Baptiste dont je parle, où nous enregistrons l'émission devant public chaque premier lundi du mois. Et la librairie Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi David, notre libraire, qui nous accueille, qui prend soin de nous et parfois qui vient se mêler un petit peu à la conversation. Alors, si ça vous convient, avant de débuter notre réflexion sur les Lumières, on va écouter une pièce musicale choisie par Simon. Simon qui va nous parler ensuite de Isaac Newton. Newton est un des principaux, sinon peut-être même le principal précurseur des Lumières. Alors, on va écouter une pièce de Arcade Fire, Reflector, parce que Newton a fait des découvertes importantes sur la réflexion de la lumière. Donc, Reflector de Arcade Fire.
I'm not afraid to
Alors, on est de retour avec Simon. Bonjour, Simon.
Allô, Catherine.
On va parler de Isaac Newton. Simon, est-ce que tu pourrais commencer par nous situer un petit peu le personnage par rapport à son époque?
Oui, bien, en fait, Newton, c'est un Anglais, premièrement. Oui. Il naît dans la campagne anglaise. Il y a déjà une controverse, à savoir l'année de sa naissance, étant donné que le calendrier a changé durant sa vie. Fait qu'il y a... Il y a comme eu l'impression d'un nouveau calendrier qui était comme plus qui respectait mieux le cycle de la Terre autour du Soleil. Fait que là, soit qu'il est né à Noël 1642 ou en mars 1643.
Bon,
dans la campagne anglaise, mais ouais, c'est ça. Donc, c'est Noël ou pas.
C'est trois mois de différence.
Trois mois de différence, à peu près. Et puis, ça, Newton, en fait, c'est probablement le physicien. Même si à l'époque, on ne disait pas vraiment physicien, on disait plus philosophe naturel.
Mm-hmm.
Mais c'est le physicien, a posteriori, qui a probablement plus influencé la science qu'est la physique par ses nombreuses découvertes, par un peu sa façon de faire la science. Et puis, ben c'est ça, c'est lui qui vraiment qui a enclenché la révolution qu'on appelle newtonienne, qui est un peu la deuxième grande révolution scientifique en physique, okay. après celle de Copernic.
Copernic, oui.
Et puis, bon, la révolution de la Terre autour du Soleil oui. et la rotation de la Terre sur elle-même. Donc, Newton, lui, essaie d'expliquer ça, il déclenche la seconde révolution scientifique qui, bon, ben a duré pendant quand même un certain temps, durant pratiquement tout le siècle des Lumières, finalement. Puis ben Newton, c'est ça, c'est un étudiant premièrement à Cambridge, qui est bon que tout le monde devrait connaître maintenant.
Parce que l'université.
Cambridge, qui est une des plus universités européennes et même dans le monde la plus connue, ou à peu près. Et puis ben il étudie là pendant un certain temps. Et puis ben c'est ça, durant ses études, durant sa carrière de professeur à Cambridge par la suite, ben il va un peu, il va faire deux grands livres qui vont révolutionner la physique qu'on connaît aujourd'hui.
Il a beaucoup influencé les scientifiques de son temps. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ses principales découvertes?
Oui. En fait, pour faire une histoire courte, c'est que durant ses études à Cambridge, durant le temps qu'il fait sa formation, ses études, avant son baccalauréat, entre guillemets, il y a comme une espèce d'année miraculeuse qu'on appelle l'annus mirabilis, mm-hmm. qui est causée par le fait que Cambridge a une épidémie de peste et ils doivent évacuer l'école. Donc, lui, il retourne chez ses parents, mais en fait, sa mère, parce que son père est décédé lorsqu'il était, en fait, même pas encore né, okay. il est 3 mois avant sa naissance. Puis, ben il retourne à la maison, puis durant ce séjour-là, je sais pas, l'aspect bucolique de la campagne fait en sorte qu'il y a une espèce d'éclair de génie qui va durer peut-être pendant un an.
Un éclair de génie qui dure pendant un an.
Ben, en fait, c'est
son anus.
C'est un éclair prolongé dans le temps.
oui.
Donc, un éclair assez long, oui. Qui va faire en sorte, en fait, qu'il va poser premièrement les bases du calcul différentiel.
Okay.
Pour faire une histoire courte, c'est un peu l'aspect des mathématiques qui nous permet, par exemple, de poser des équations qui vont nous expliquer comment évoluent les choses dans le temps.
Okay.
Donc, a posteriori, c'est super important pour pouvoir faire le genre de science que Newton va faire tout le long de sa vie. C'est à ce moment-là aussi qu'il y a un peu l'espèce de l'anecdote de la pomme. Donc, Newton, en fait, on pense aujourd'hui que c'est pas vraiment comme ça qu'il y a eu son éclair de génie par rapport à la gravitation. Mais il y aurait eu une révélation lorsqu'il aurait vu tomber une pomme. Il aurait fait le rapprochement entre la Lune qui tourne autour de la Terre et la pomme qui tombe de l'arbre comme étant la même force, la gravitation,
okay.
qui causerait les deux mouvements. Okay. Mais a posteriori, c'est encore une fois, on n'est pas sûr que ça soit exactement comme ça s'est passé. Mais bon, dans une lettre qu'il aurait écrite à un autre savant anglais, c'est comme ça qu'il expliquait un peu comment il avait eu sa première idée. Et puis bon, dans les mêmes années aussi, il fait encore une fois l'expérience qu'il a appelée l'expérimentum crucis, qui est l'expérience cruciale, où il va faire diverger la lumière du soleil par un prisme pour pouvoir s'apercevoir finalement que la lumière n'est pas blanche, mais est constituée de différentes couleurs, mm-hmm. donc les longueurs d'onde de la lumière. Donc la lumière blanche, c'est pas genre pur, c'est vraiment un mélange de couleurs, puis ça va révolutionner un peu l'optique à l'époque.
C'est à la fois un mathématicien, un astronome et un physicien, parce que les trois découvertes que tu viens de nous citer, c'est comme dans trois domaines différents.
Oui, c'est vraiment, en fait, ça va fonder vraiment les deux branches de la physique qui vont perdurer pendant jusqu'au début des années 1800, quand on va commencer vraiment à s'intéresser à l'aspect, mettons, électrique et magnétique aussi de la science. Donc, jusque-là, la physique, on peut considérer que c'est la physique de l'espace, la mécanique classique, comme oui. on l'entend, et l'optique, qui est la physique de la lumière.
Okay.
Donc, Newton va faire deux livres, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Son premier livre qui s'appelle « Les Principia », qu'on résume par « Principia », qui sont... les principes de philosophie naturelle, traduits okay. en français. Et puis, bon, ce livre-là va montrer que la gravitation permet au Soleil, en fait, à la Terre de tourner autour du Soleil, va expliquer aussi le mouvement des météorites, la marée, d'où vient la marée, les marées plutôt, sur Terre.
Okay.
Donc, ce livre-là va comme mettre en branle vraiment une espèce de révolution que le monde va enfin comprendre comment fonctionne le système dans lequel on vit, un peu l'univers dans son entier ou pratiquement,
oui.
si on pense que la gravitation, c'est la force la plus importante à grande échelle. Puis en 1704, il va écrire son deuxième livre qui s'appelle « L'optique », qui a un nom bien choisi, étant donné que ça parle d'optique. Puis là, il va exposer sa théorie de la lumière. Donc, par exemple, il va enfin expliquer la théorie du prisme, donc que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais il va oui. aussi expliquer, par exemple, en fait, le modèle qui était la norme pendant environ tout le siècle des Lumières, qui est le fait que la lumière n'était pas des ondes, mais qui était constituée de particules, des particules de lumière qui se propageaient dans un éther hypothétique. Puis ben, ça va durer jusqu'à 1815 ou à peu près, ou quand il va y avoir une découverte par Fresnel qui va montrer que la lumière peut aussi se comporter comme une onde. Okay. Donc pendant 150 ans ou presque, c'est la théorie de Newton de la lumière qui domine. Et puis celle de la mécanique classique, celle de l'espace, là, qui explique la, la gravité, ben, elle, elle va durer pratiquement jusqu'à Einstein au début du 20e siècle. Donc, il y a vraiment de l'influence qui perdure dans le temps, qui va influencer la plupart des physiciens pendant, ouais, c'est ça, 250 ans à peu près.
C'est énorme.
Oui, voilà.
Tu as parlé de deux ouvrages qu'il avait écrits pour avoir fait tant de découvertes. C'est peu, deux ouvrages. Est-ce qu'on sait pourquoi il a si peu écrit?
Bien, Newton, c'est une personne qui est, d'un point de vue psychologique, il est vraiment peu sociable, donc il n'aime pas beaucoup parler. En fait, il aime plus envoyer des lettres que parler avec ses collègues, en premier. Et puis, deuxièmement, quand il fait son entrée à la Société royale, qui est une espèce de société des gens savants anglais à l'époque, ben il se rend compte qu'il y a des gens qui s'intéressent à ses travaux, mais aussi qui aiment bien les critiquer.
Okay. Et
Newton, lui, n'aime pas être critiqué. Quand il écrit quelque chose, c'est parce qu'il pense que c'est vrai et que c'est la seule vérité qui doit être acceptée. Donc, notamment, il y a Robert Hooke, qui est un physicien anglais, qui est de très haut calibre, qui est comme la personne à l'époque qui a le plus d'influence. Ben lui, il n'aime pas vraiment les théories de Newton parce que ça contredit un peu les siennes. Fait que il va s'engager dans un long discours, un échange de lettres, des articles qui se contredisent les uns les autres. Et puis, Newton va finir par tellement plus aimer ça qu'il ne se présentera plus à la Société royale à cette époque-là. Puis, en fait, il va un peu se délaisser un peu le monde scientifique parce que il n'accepte pas vraiment de
se faire critiquer.
Et puis, en fait, son deuxième livre, qui est L'Optique, en 1704, il va attendre un peu que ses plus fidèles réfractaires, dont Hooke et Leibniz, va attendre un peu qu'il soit mort, finalement, pour pouvoir faire son deuxième livre, pour être sûr que personne ne puisse vraiment le critiquer, étant donné que eux, ben, ils peuvent plus le faire. Fait que c'était les pires, selon lui.
Okay.
Puis, ben, c'est ça, il s'est vraiment retranché pendant un long moment, durant environ toute le tiers de sa vie. Il fait de la science, mais il ne veut plus vraiment en parler.
C'est assez étonnant. Ouais. on a parlé de ses travaux comme mathématicien, comme astronome et comme physicien, mais peut-être que c'est une chose qu'on sait moins, mais il a aussi fait des travaux d'alchimie.
Oui, en fait, c'est ça. C'est durant la partie où on ne voit plus vraiment Newton, où il s'évapore dans la nature, comme on pourrait dire. Ben, il fait aussi beaucoup de travaux qui sont, plus occultes. Donc, l'alchimie, ça en fait partie. Il fait aussi de la théologie beaucoup. Pour l'alchimie, en fait, il y a des gens qui disaient que les fours n'arrêtaient jamais de fonctionner dans les laboratoires de Newton, étant donné qu'il était vraiment il était acharné à son travail. C'est un peu surprenant, étant donné que, bon, on pense souvent à Newton comme étant un être super rationnel, la méthode scientifique, justement.
Oui, c'est ça.
Les mathématiques super poussées du calcul différentiel, mais il y avait vraiment un côté, disons, sombre, le côté sombre de la force, qui était celui de Newton, qui était vraiment la recherche. Il recherchait la pierre philosophale, même l'élixir de jouvence. Donc, il a vraiment fait des travaux acharnés là-dessus.
Changer le plomb en or,
oui, c'est ça. Et puis, ben, c'est un peu surprenant, étant donné qu'il avait une excellente position à l'Université de Cambridge. Il a occupé la chaire lucasienne, qui est la chaire probablement la plus prestigieuse du monde de la physique encore aujourd'hui, qui a été occupée, par exemple, par Stephen King jusqu'à tout récemment. Stephen Hawking, plutôt.
OK, oui, je trouvais ça bizarre.
Oui, je m'en souviens à personne en 10 ans, jusqu'à tout récemment. Donc, c'est vraiment une chaire importante. Donc, il ne veut pas perdre son travail. Ça doit être super payant pour l'époque, j'imagine. Mais il fait aussi des trucs que la couronne anglaise n'accepte pas vraiment, comme l'alchimie. Il y a plusieurs restrictions à la pratique de l'alchimie en Angleterre, possiblement dû au fait que, bon, le puritanisme ambiant à l'époque, et aussi le fait que, bon, la couronne anglaise... n'a pas vraiment l'intention de voir les gens transformer le plomb en or à tout bout de champ. C'est pas super bon pour la monnaie et pour l'économie du pays, j'imagine. Donc, il y a des bonnes restrictions. Donc, même un alchimiste qui est reconnu coupable d'avoir fait d'avoir utilisé des procédés alchimiques qui sont refusés par la couronne peut être condamné à mort, tout simplement.
Je croyais que c'était accepté, la pratique de l'alchimie à cette époque.
C'était accepté beaucoup plus sur le continent que en Angleterre en tant que tel.
Okay.
Donc, il y a même Robert Hooke, qui est aussi un savant de l'époque de Newton, et aussi un alchimiste, mais lui aussi, il ne le dira jamais vraiment. Il ne publiera pas ses travaux, étant donné que les gens ont trop peur de... C'est un peu la chasse aux sorcières, mais la chasse aux alchimistes. Mais il y a quand même on peut quand même pratiquer l'alchimie, mais c'est pas totalement accepté.
Mais comment on sait qu'il a fait de l'alchimie, ouais. en
fait? C'est ça. Donc, Newton publie jamais réellement ses traités d'alchimie. Il les garde, les conserve un peu dans son laboratoire. Sauf qu'à sa mort, la plupart de ces documents-là ont été récupérés par sa grande nièce.
Okay.
Donc, lui, il n'a jamais eu d'enfant. C'est un autre pan de sa vie, la chasteté de Newton. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais okay.
Ça a l'air intéressant.
C'est la chasteté. C'est intéressant pour certaines personnes, peut-être, mais c'est quand même l'absence d'une chose, la chasteté.
Oui, oui.
On peut en parler longtemps, qu'est-ce que le rien.
Tu sembles me dire que Newton avait la réputation d'être chaste, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, okay. Puis ça a été... en fait, ça a été... un des commentaires de Voltaire qui a assisté aux funérailles de Newton, qui était en Angleterre à ce moment-là. Et puis, il était tellement impressionné par le personnage qu'il aurait demandé aux prêtres et aux médecins légistes qui étaient là à la mort de Newton s'il avait parlé de sa chasteté, et Newton leur aurait dit qu'il avait été chaste toute sa vie.
Oh.
Donc, c'est un peu Voltaire qui a parti cette rumeur-là qui a perduré jusqu'à nos jours. On ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais bon.
Okay.
Et puis,
pour revenir aux écrits sur l'alchimie.
Donc, cette grande nièce-là va finalement les léguer à un comte anglais qui va léguer ces documents-là pendant à sa descendance jusqu'en 1936, au moment où il y a le comte de l'époque, le comte de Portsmouth, qui est probablement un comté anglais, j'imagine.
Oui.
Elle va les vendre aux enchères par Sotheby's, qui est une grosse maison d'enchères anglaise qui est très renommée pour ses ventes de tableaux d'artistes peintres très célèbres, justement d'impressionnistes et tout ça. Et puis, il y a une personne célèbre qui s'intéresse beaucoup à Newton à ce moment-là et qui va acheter les documents, c'est John Maynard Keynes, qui est vraiment un économiste.
Le keynésianisme.
L'économiste le plus réputé du 20e siècle, ou à peu près, en tout cas celui qui a eu le plus d'influence, s'intéresse beaucoup à Newton. Et il achète la plus grande partie du lot de documents reliés à l'alchimie que Newton avait légué par sa grande nièce.
OK. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris qu'il avait fait... C'est à ce moment-là qu'on a su que Newton avait fait de l'alchimie?
Il y avait des gens qui avaient des doutes, mais à ce moment-là, c'est sûr, parce qu'on commence à analyser les documents. Donc, Keynes, d'ailleurs, est comme un des spécialistes de l'alchimie de Newton, finalement, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il regarde les documents, mais encore jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas vraiment exactement sur quoi Newton a travaillé, étant donné qu'on a de la difficulté à déchiffrer les documents. Ouais. Donc, comme tout bon alchimiste, plus on écrit de façon sombre et indéchiffrable, meilleur on est probablement. Donc, présentement, ces documents-là sont passés à une autre personne après Keynes. Et puis, cette personne-là, finalement, les a légués à l'Université nationale à Jérusalem, en Israël.
Okay.
Puis là, présentement, on travaille justement à faire des copies numériques de tous les documents Newton et à essayer de les déchiffrer. Donc, tous les fanatiques d'alchimie sur Terre peuvent se rendre sur Internet et essayer d'aider les scientifiques, les historiens des sciences à trouver qu'est-ce que Newton a fait réellement comme travail alchimique.
En terminant, je pense que Newton a aussi fait des écrits théologiques. Ça m'étonne énormément de la part d'un scientifique, quelqu'un qui a aussi tenté de faire de l'exégèse.
Bien, en fait... C'est étonnant d'une vue actuelle. La plupart des scientifiques sont assez séparés, le monde religieux et le monde scientifique, malgré que le Vatican ait un astronome officiel. Mais c'est un autre sujet. Donc, oui. Newton travaille beaucoup en théologie. En fait, à Cambridge, à l'époque, pour être membre du personnel à Cambridge, il faut faire certains... faut, par exemple, respecter les lois de l'Église d'Angleterre. Il faut quand même apporter une certaine adhérence, disons, à l'Église anglicane de l'époque. Donc, Newton, lui, il n'aime pas beaucoup ça, mais il décide quand même, en fait, il fait des pressions, réussit quand même à être professeur sans respecter tous les demandes de l'Université de Cambridge.
Oui, il était tenu de faire des recherches en...
Pas nécessairement tenu de faire des recherches sur le sujet, mais il devait quand même avoir une certaine foi et la démontrer auprès des étudiants et des autres membres du personnel.
OK.
Donc, Newton est un peu un hérétique de la foi anglicane à l'époque. C'est un unitarien. Unitarien, donc, ça veut dire qu'il ne respecte pas la Trinité. Donc, pour lui, Dieu, il y a juste Dieu, Jésus, l'Esprit-Saint sont des entités qui sont idolâtres. Donc, il y a juste Dieu. Et ça, ça ne fonctionne pas vraiment avec les préceptes de l'époque.
Mm-hmm.
Et puis, il va écrire aussi beaucoup de choses, par exemple, sur des trucs beaucoup plus mystiques, sur le temple de Salomon, sur la géométrie du temple de Salomon. Il va faire une analyse mot pour mot dans le texte de l'Apocalypse, où il respecte pas vraiment les dogmes en place à l'époque. Donc, tout ça aussi va être mis un peu à l'index par la famille de Newton, étant donné que, bon, avoir un hérétique dans sa famille au 17e siècle, c'est pas vraiment bien oui. vu.
Et c'est un côté de Newton qui était plutôt méconnu. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir fait connaître cette partie cachée de Isaac Newton.
Ça fait plaisir.
Est-ce qu'en terminant, tu aurais une lecture à nous conseiller sur Newton, si des gens voulaient aller un petit peu plus loin sur tous ces détails-là?
Il y a deux excellentes biographies que je peux conseiller. Je crois que la première est en langue française, c'est sûr, c'est celle de Gleick, G-L-E-I-C-K.
Okay.
Qui s'appelle tout simplement Newton.
D'accord.
Et puis, il y a une biographie que je connais le nom en anglais. Je ne sais pas s'ils l'ont fait une traduction française. C'est Dover, la maison d'édition super réputée de l'histoire des sciences. Et ça s'appelle Never at Rest, donc toujours en mouvement, si on peut traduire comme ça. C'est par Westphal. Ça, c'est vraiment comme la Bible sur Newton. C'est grandiose.
Ben, merci beaucoup, Simon. On va faire une pause afin de permettre à CKIA de diffuser donc les publicités et les indicatifs de la station. Ensuite, afin de se mettre tout à fait dans l'ambiance des philosophes des Lumières, on va écouter une très belle pièce de clavecin composée par Jean-Philippe Rameau.
Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire, tu es petit oiseau. Sur terre, même Dieu ne sait pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de rien gagner avec un cœur gros comme ça. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joyeux de cœur à terre, c'est la faute à Voltaire. Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leur dame. Et pour te rattraper, il leur faut plus la gendarme. On me connaît partout de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout, sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau. On est né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et bête, t'as pas les os, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Thank you.
Alors, c'était une pièce pour clavecin de Jean-Philippe Rameau intitulée « Les Cyclopes ». Et nous sommes de retour maintenant avec Dominique et Adrien qui se sont donné le projet de nous éclairer sur la période des Lumières. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Bonjour Adrien.
Bonjour Catherine.
Alors, pour commencer, Adrien, pourriez-vous nous dire, quand on parle des Lumières, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce que c'est que les Lumières?
En fait, Catherine, les Lumières, ce n'est pas tant un courant de pensée, plutôt un état d'esprit qui a caractérisé le 18e siècle français. C'est un état d'esprit qui est basé sur les valeurs de progrès et de liberté, soit la liberté individuelle ou les libertés politiques. C'est aussi une attitude d'esprit qui est favorable à la raison, soit le rationalisme philosophique et scientifique. Une attitude d'opposition aussi aux préjugés et au fanatisme religieux.
Okay.
Les Lumières sont liées à l'extension du savoir et à la classification des connaissances. Par exemple, des œuvres comme l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'Histoire naturelle de Buffon ou l'Essai sur les mœurs de Voltaire, ou encore les découvertes de Newton et de Réaumur participent à l'esprit des Lumières. Un autre trait des Lumières, c'est l'esprit d'examen, qui est issu de la réforme protestante, de même que la valorisation de l'éducation, qu'on pense par exemple à l'Émile de Rousseau, publié en 1762.
Oui.
Les Lumières vont dans le sens donc du libéralisme politique avec les lettres anglaises de Voltaire.
OK.
Et en fait, c'est bon de mentionner aussi que les Lumières ne sont pas uniquement françaises, mais européennes. Elles concernent l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Russie.
Oui, Dominique?
Aussi, les Lumières s'appliquent plus particulièrement à plusieurs domaines. Les chevaux de bataille principaux des Lumières vont être, entre autres, la morale, la politique, la science. À ce qui a trait à la morale, c'est certain que ça va être une émancipation de la religion. On va chercher une morale humaine et universelle, basée beaucoup plus sur comme un fait humain et non plus comme sur une théologie révélée comme avant. C'est certain qu'avant, l'Église avait le monopole de la raison.
Oui.
Donc, l'humain va essayer de s'apatrier un peu, de rapatrier un peu la question de la morale, puis y appliquer à la raison humaine et à la nature humaine, question d'avoir une morale plus à la mesure de l'être humain.
Et qu'est-ce qui fait que tout à coup, les gens dans différents pays se sont mis à défendre des idées comme ça de liberté de penser et de critiquer le pouvoir religieux?
Moi, je pense que ça vient d'un état d'esprit qui s'est modifié avec les années. Les Lumières ne sont pas apparues spontanément. Elles découlent beaucoup du 17e siècle,
oui,
mais aussi de la réforme protestante, où l'esprit de libre examen s'est implanté de plus en plus. Il faut dire aussi que les Lumières, les idées des Lumières, se sont développées en rapport avec le développement social et l'économie également.
Okay.
De sorte que tout ça a convergé aussi vers des idées politiques et vers la Révolution française, on va y venir tout à l'heure.
D'accord.
Donc, c'est porté par l'époque, mais aussi par les conditions sociales et socio-économiques.
Oui, c'est souvent comme ça. Oui, Dominique?
Faut aussi voir que certains du côté de la religion, la réforme protestante a beaucoup influencé comme une religion à la mesure de la raison humaine, mais il y a aussi du point de vue politique que c'est une période, on parle en France de Louis XIV, des rois qui étaient très forts. Donc c'est certain que ça va beaucoup influencer, puis voir les Lumières vont beaucoup se positionner contre la politique de droit divin et tout ça là, qui était présente.
Oui.
Donc le contexte politique était propice à une certaine opposition et à une certaine critique, tellement qu'il était fort dans la répression et dans l'autoritarisme, etc.
C'est comme une surréaction à une trop grande oppression.
Voilà, oui. Puis du point de vue de la science aussi, il y a Newton, on peut pas écarter
Newton. Oui,
c'est un
incontournable.
Voilà.
On en parlait tout à l'heure avec Simon, et il a beaucoup bouleversé les idées, la manière d'approcher la connaissance.
Exactement. Puis quelques années avant, on avait une révolution scientifique, quelques dizaines d'années avant, donc avec Galilée, puis avec Bacon.
Oui.
Donc ça va aussi beaucoup influencer. Puis on va avoir l'idée d'une science basée sur l'expérience, puis sur un monde qui est explicable par les lois de la nature, etc.
Oui.
D'ailleurs, le 18e siècle peut être exprimé par une recherche de loi pour tout, que
oui,
ce soit au niveau de la politique, de la nature, de la science,
oui,
de la morale.
D'où tout le projet de l'encyclopédie aussi.
On cherche des lois de la raison pour expliquer absolument tout.
Oui. Dites-moi, Adrien, ce qu'on appelle les philosophes des Lumières, est-ce que ça forme un groupe homogène ou s'il y avait différents courants de pensée à l'intérieur de ça?
En fait, en France, les hommes des Lumières ne formaient pas ce qu'on appelle un parti. il ne constituait pas un groupe socialement et idéologiquement homogène.
Mm-hmm.
Voltaire, par exemple, était l'ennemi de Rousseau,
oui.
qui, de son côté, lui, avait rompu avec le clan encyclopédique.
Oui.
D'un autre côté, Diderot n'aimait pas non plus Voltaire. Et ils se sont assez peu rencontrés, d'ailleurs.
Mais ce n'était pas plutôt des détails sur lesquels ils s'entendaient? Je pense qu'ils s'entendaient sur le fond du mouvement.
Ils s'entendaient sur un certain nombre de choses, mais oui. pas tout, vous allez voir.
Oui.
Par exemple, Voltaire n'aimait pas le baron d'Holbach à cause de son athéisme, parce que Voltaire n'était pas ce qu'on appelle un athée, mais un déiste.
OK.
Et le matérialisme de Lemaître, par exemple, et d'Helvétius n'étaient pas non plus partagés par tous les penseurs de l'époque,
okay.
et y compris les penseurs des Lumières.
Oui.
Montesquieu, de son côté, eh bien, il n'appartenait pas au même monde social et politique que les autres penseurs des Lumières. Il est un petit peu en marge de ce point de vue-là, bien qu'il partage un certain nombre de valeurs des Lumières aussi.
Mm-hmm.
On a considéré Voltaire comme la figure emblématique des Lumières. Ses prises de position étaient cependant assez ambivalentes. Par exemple, Voltaire était personnellement opposé à la religion. Mais il reconnaissait son utilité sociale. Il n'était pas contre la monarchie, puisqu'il était favorable à un despotisme éclairé.
Mm-hmm.
Il n'avait aucune confiance dans le peuple. Pour lui, le peuple, ça correspondait non pas à des lumières, mais à de la noirceur.
OK. C'est étonnant.
Voltaire aimait l'argent, il ne dédaignait pas les faveurs des princes, ce que n'aurait jamais accepté Rousseau. Qui, lui, bien que pauvre, va refuser d'être pensionné par le roi.
Oui.
Donc, les penseurs de Lumière n'étaient pas un groupe homogène.
Oui, je comprends.
Ils divergeaient sur un certain nombre de points, tout en s'entendant sur d'autres, comme oui. sur la question de l'éducation, sur la liberté et d'autres thèmes comme ceux-là. Là.
Ils pouvaient tous défendre, par exemple, la raison, le progrès. L'idée que la science va mener à davantage de connaissances et vers le mieux, mais sur les valeurs face à la société, là, il peut différer.
Oui, en fait, Rousseau, par exemple, on va y revenir plus tard,
oui.
est un penseur qui se situe sous certains aspects dans l'optique des Lumières, puis dans un autre côté, ce serait plutôt un anti-Lumière.
Ah oui.
Et on reviendra sur le sujet un peu plus tard,
d'accord.
au sujet de Rousseau.
Dominique, tu voulais ajouter quelque chose?
Très rapidement, là, c'est certain que les Lumières ne se limitent pas uniquement à la France, mais aussi on parle des Lumières en Allemagne, donc avec l'Aufklärung, qui est le terme allemand, avec des philosophes comme Leibniz, Wolff, puis Baumgarten, qui eux vont être beaucoup plus homogènes dans leur pensée.
Okay.
On va parler d'un rationaliste, c'est-à-dire le pouvoir autonome de connaissance de la raison, donc la raison par elle-même peut connaître sans l'entremise des sens, puis aussi beaucoup de métaphysique, là, c'est-à-dire un savoir rationnel, intelligible, avec des dieux, des monades, etc. Du côté de l'Angleterre, c'est un peu tout autre, en fait, c'est pratiquement l'opposé. On va parler de l'Enlightenment, qui est le terme anglais, avec Bentham, Hume, Smith, Adam Smith. Puis ça va être beaucoup plus dans l'empirisme, ce qui est à l'opposé du rationalisme. Donc, il y a une conception à partir des sens et de la terre et du monde physique de faire la connaissance. Ça va être une conception beaucoup plus utilitariste du savoir, de la morale, de l'existence humaine. Puis avoir une grande méfiance par rapport à la métaphysique qui est si chère aux Allemands. Ils vont préférer beaucoup plus la science. On le voit avec Newton. Newton était un Anglais. Donc, ça va être beaucoup plus dans la science que dans la métaphysique. Donc, ils partagent beaucoup plus de points positifs, mais ils sont quand même très diversifiés, là, comparativement aux Français, qui sont beaucoup plus l'un contre les autres. Là, pratiquement, ils vont s'écrire des lettres assez enflammées pour se critiquer,
oui,
etc.
Oui, comme dans l'esprit français.
C'est un champ de bataille, on va
oui,
dire.
Oui,
voilà.
Tout à fait. Donc, si je comprends bien, quand on parle des philosophes des Lumières, on parle de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne. C'est ça?
Ça s'étend plus loin que ça,
ah oui?
mais c'est certain que l'Allemagne va avoir une culture très propre, on va l'appeler ça l'Aufklärung, l'Angleterre a une culture très propre, mais on va parler de lumière en Russie avec Catherine II, etc., en Italie. Mais certain
en
que,
Espagne aussi.
En Espagne, mais c'est certain que ces trois pays-là vont être beaucoup plus marqués par le phénomène des Lumières pour des raisons politiques et autres, là, mais aussi parce que c'est les trois pays qui, historiquement, connaissent le plus de philosophes au travers des âges.
Il y a un philosophe que vous n'avez pas nommé parmi tout ce groupe-là, c'est Kant. Est-ce que Kant a participé au mouvement des Lumières, Dominique?
Il faut dire que Kant, il s'inscrit dans ces années, certain qu'il est parti parfaitement dans le 18e siècle, c'est-à-dire qu'il est né en 1724, il est mort en 1804. Donc, il est dans le mouvement. Par contre, quand on parle des Lumières allemandes, de l'Aufklärung, habituellement, on va parler de Leibniz, de Wolff, de Baumgarten, qui sont opposés à Kant, parce que Kant va s'opposer un peu à leur métaphysique décadente. Il va proposer une métaphysique beaucoup plus rationnelle dans la critique de la raison pure, d'ailleurs. Mais c'est très intéressant parce qu'en 1784, en fait, Kant va répondre à une question qui est « Qu'est-ce que les Lumières ?» Une question très pointue, très embêtante aussi.
En quelle année, tu dis?
En 1784. La question a été posée en 1783, mais il a répondu en 1784. Pour lui, les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité, où il se maintient par sa propre faute. C'est-à-dire que la minorité, c'est ne pas être capable d'utiliser son entendement, sa raison par soi-même. Donc, il va dire, les Lumières, c'est ça, c'est être capable d'utiliser sa raison, mais c'est aussi une illumination. Le terme allemand « Aufklärung », il est actif. C'est l'illumination des choses, apporter la lumière à. Donc, sortir l'homme de sa minorité où il n'est pas capable d'étudier sa propre raison. Le peuple doit s'éclairer lui-même par un usage public de la raison, par des livres, etc. Là, faire un usage public de la raison pour être capable de montrer que le peuple peut s'émanciper, peut s'illuminer. En ce sens, les Lumières ne sont pas nécessairement un groupe homogène d'idées et ne se limitent pas au 18e siècle. C'est pour ça qu'on va parler qu'il y a certaines Lumières en Antiquité. En Antiquité, on va parler de certaines Aufklärung de l'Antiquité. Toutes les époques où la critique des préjugés, de la tradition sont mises à l'avant-plan, où on va pouvoir faire l'usage public de la raison, on va appeler ça des époques éclairées. Et d'ailleurs, Kant s'inscrit en ce sens dans la lignée des Lumières, parce que son œuvre maître, qui est la critique de la raison pure, assez volumineux d'ailleurs, est une critique de la critique. C'est une critique de la raison elle-même, par la raison. Dans ce sens, il s'inscrit parfaitement dans la lignée des Lumières, pas uniquement, mais un peu moins dans la lignée des Lumières allemandes.
Mais je veux revenir sur le fait que les Lumières n'est pas un mouvement propre au 17e siècle, comme la plupart la plupart des gens le pensent, mais que c'est l'idée de critiquer la politique et les idées reçues. C'est bien ce que je comprends?
Au départ, les Lumières, c'était un terme qui était utilisé pour désigner le 18e siècle.
Oui.
Mais le terme a pris de l'expansion et on a considéré avec les années que ça pouvait s'appliquer à d'autres périodes de l'histoire.
D'accord.
Mais au départ, les Lumières, c'était essentiellement le 18e siècle. Et beaucoup le 18e siècle français parce que à l'époque, la France joua un rôle très important en Europe. La langue française est une langue parlée dans toutes les cours d'Europe.
Oui,
Frédéric II, roi de Prusse, se piquait lui-même de parler français à sa cour et il disait « Je ne parle allemand qu'à mon chien ». Alors, le français se parlait partout, à la cour de Suède, en Russie, à l'époque de Catherine II. Et les Lumières qui sont beaucoup françaises sont devenues européennes, mais la France a joué un très grand rôle. Et par la suite, le terme lumière a été pris de l'extension pour désigner aussi toute période dans l'histoire du monde où on apporte des lumières. Exemple, la Renaissance a été considérée comme une période de lumière.
La Renaissance, ce serait aussi une autre période de lumière. Est-ce qu'il y a d'autres périodes de lumière que les historiens ont ciblées ou les philosophes ont ciblées?
Les modernes ont tendance à considérer qu'eux-mêmes sont une source de lumière, ce qui n'est pas toujours la vérité.
Non, en effet. est-ce que la Révolution française et les droits de l'homme sont issus du mouvement des Lumières en ce sens-là, Dominique?
Il faut dire que, d'un point de vue historique, la plupart des nouveaux régimes et des nouvelles idées ont toujours cherché à se légitimer en se réclamant les idées du passé.
Oui.
On le voit d'ailleurs en la Grèce antique avec Homère, avec le célèbre Iliade et l'Odyssée, où il essaye de légitimer le peuple grec à partir de racines mythologiques, avec la descendance des dieux, des héros, etc. On le voit aussi avec Virgile, avec la Rome naissante, où il va essayer de se légitimer en disant que finalement, Rémus, Romulus, découle des héros grecs de l'Antiquité, etc. Donc, c'est assez fréquent en toutes les périodes de l'histoire de vouloir se légitimer avec le passé. Ça va être le pareil avec les grandes idéologies du 20e siècle, avec le nazisme et le communisme, où tous deux vont essayer de se légitimer, que ce soit des Grecs ariens ou d'une pensée passée. Donc, c'est assez fréquent. Là,
Oui, mais on n'a jamais parlé de lumière là, dans le cas de Hitler.
Non, 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 mais c'est juste pour dire que c'est assez fréquent de vouloir se réclamer du passé puis oui. de se légitimer du passé.
Oui,
là.
Oui, ça va. Mais si on revient aux droits de l'homme... Ah, Adrien va répondre, oui.
Oui. Alors, disons que pour ce qui est de la question de la Révolution française et des droits de l'homme, je vais d'abord traiter de la Révolution parce D'accord. que les philosophes des Lumières n'étaient pas du tout dans l'esprit de la Révolution française. Et ils auraient été absolument opposés à cette Révolution et surtout à la façon dont elle s'est faite. Cependant, les gens qui ont fait la Révolution, les Robespierre, Saint-Just, mm-hmm. Marat et les autres, mm-hmm. se réclamaient des hommes des Lumières.
Okay.
Ils ont récupéré cette pensée-là, l'ont utilisée à des fins politiques. Et puis, Robespierre lui-même se disait un disciple de Rousseau. Rousseau qui, d'ailleurs, dont la pensée politique et surtout le contre-social joue un rôle fondamental dans le bouleversement de la société.
Oui.
Mais Rousseau lui-même, s'il avait assisté aux événements de la Révolution, n'aurait certainement pas cautionné tout ce qui s'est fait à cette
oui.
époque-là.
Oui.
Cependant, la question des droits de l'homme, on peut dire que ça vient essentiellement de Lumière.
Oui.
Oui, tout à fait.
Oui.
Et davantage même que l'idée de révolution.
D'accord. Donc, en fait, les idées des Lumières ne sont pas porteuses de révolution, elles sont porteuses de critiques sociales.
De critiques sociales et de réformes, surtout de réformes.
D'accord.
Les penseurs des Lumières étaient plus des réformateurs que des révolutionnaires.
Oui, Dominique?
D'ailleurs, on parlait de Kant tout à l'heure. Kant se opposait catégoriquement à l'idée de révolution. Il va dire qu'il faut que le peuple s'éclaire par la réforme, qu'on soit d'accord ou non. C'est certain que Kant, on le disait très ponctuel, et il sera dérangé de sa traditionnelle marche à deux occasions, à sa lecture de Rousseau et à sa lecture quand il a appris la Révolution française. Kant était très, très, très enthousiaste face à la Révolution française.
Ah oui?
D'ailleurs, c'est mais curieux. Par exemple, il va beaucoup apprécier les acquis de la Révolution française. Il va même défendre Robespierre, mais...
Kant
a défendu Robespierre, un des seuls d'ailleurs. Mais il va beaucoup apprécier les acquis de la Révolution française, mais il va en critiquer les moyens.
Ouais, quand on dit qu'ils ne sont pas tous d'accord, hein, c'est évident. Il y a la franc-maçonnerie aussi, hein, qui fait aussi partie des idées qui étaient très populaires à ce moment-là. On parlait... est-ce que ça a contribué au mouvement des Lumières, la franc-maçonnerie? Parce qu'ils étaient tous plus ou moins francs-maçons, ces gens-là.
Bon, alors... Concernant la franc-maçonnerie, il faut dire qu'elle a été introduite en France dans les années 1830. Elle venait de l'Angleterre. Et la franc-maçonnerie était une société secrète de tendance déiste, dont les buts étaient humanitaires et philanthropiques.
Mm-hmm.
Et les loges maçonniques s'apparentaient à un cercle ou à un club social. La majorité des membres de la franc-maçonnerie étaient respectueux à l'égard de la religion et de la royauté.
Mm-hmm.
Pas tous, cependant, mais il y a eu une évolution au cours du siècle qui va être abordée tout à l'heure. Là. Mais d'une façon générale, on peut dire que la franc-maçonnerie n'avait pas au 18e siècle un caractère séditieux. Elle ne visait pas à bouleverser ou à révolutionner la société. Et on a prétendu que la franc-maçonnerie avait ourdi un complot visant à faire tomber la royauté. On avait parlé du complot judéo-maçonnique. Mais les historiens sont très opposés à ces idées-là. Et en général, ils n'ont pas cautionné ces allégations. Maintenant, il faut dire que la franc-maçonnerie, bien qu'elle a été condamnée par le pape dans les années 1836 ou 38, je pense, elle comptait dans ses rangs des prêtres, des évêques et même des catholiques éminents comme Joseph de Metz.
Mm-hmm.
Maintenant, je dois dire aussi qu'au cours du 18e siècle, la franc-maçonnerie a peu à peu servi de relais aux idées des Lumières.
Okay.
Alors, de sorte que le rationalisme et l'esprit critique s'exprimaient assez librement à l'intérieur des rencontres des francs-maçons. Et il faut dire aussi que les francs-maçons, la franc-maçonnerie comptait parmi ses membres des gens comme Voltaire, Diderot, Helvétius et même Mirabeau.
D'accord.
Et plusieurs des adhérents se rattachaient à l'encyclopédie. Il y avait même une loge qui portait le nom de loge encyclopédique. Et puis, il y a un certain nombre de maçons, il faut dire aussi, qui ont milité en faveur de la Révolution. Et la franc-maçonnerie s'est davantage rapprochée des idées des Lumières au fur et à mesure que le siècle avançait.
Okay.
Mais au départ, ce n'était pas ça.
Non.
Mais... Et la franc-maçonnerie n'a jamais été dans son entente révolutionnaire.
Okay.
C'était des gens qui même respectaient la religion et le roi, bien qu'il y avait dans la franc-maçonnerie des gens qui étaient très opposés à la religion, à l'Église et aussi à la monarchie, bien sûr.
Donc, on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie a été le foyer ou de là, c'est pas de là d'où viennent les Lumières, mais c'est un mouvement qui a contribué, comme vous disiez tout à l'heure, à faire connaître ces idées-là.
La franc-maçonnerie a servi de relais, a contribué à peut-être étendre les idées des Lumières, mais elle n'a pas contribué tant que ça à la Révolution. Okay. Pas autant qu'on le dit, en tout cas. Okay. C'est ce que les historiens semblent dire. Les historiens de droite ont beaucoup pointé la franc-maçonnerie qui aurait ourdi un complot, qui aurait entretenu des liens avec les Illuminati d'Allemagne. Mais okay. Les historiens sont très réservés là-dessus.
On tombe dans autre chose. On ne va pas tomber dans les Illuminati ce soir. On parlait de Rousseau tout à l'heure. Vous sembliez discuter le fait qu'il appartenait au même mouvement que les autres. Est-ce que, Dominique, on doit considérer Rousseau comme un philosophe des Lumières?
Kant disait que Rousseau est le Newton du monde moral. Les rapports sur Rousseau sont très nuancés. Parce que certains historiens de la philosophie vont dire que ce n'est pas un membre des Lumières. Certains d'autres vont dire que c'en est un. Donc, je vais peut-être apporter certaines nuances. Là. Mm-hmm. C'est une question assez difficile. C'est certain que Rousseau, d'un côté, s'oppose à l'idée une idée très chère aux Lumières, qui est celle du progrès. Rousseau va émettre de radicales protestations contre le progrès des sciences. Quand il va répondre à la question « Est-ce que les sciences ont aidé à l'amélioration des mœurs, etc. », il va répondre « Non, parce que quand on regarde d'un point de vue historique, le progrès scientifique s'est amélioré, mais les mœurs, non.
Okay. »
Donc, il va dire « La science n'améliore pas les mœurs. » Il va même regretter un passé. Il va considérer que l'homme était bon, mais que la société, les institutions l'ont corrompu.
Oui, oui,
donc, il va regretter le passé, mais il va dire qu'on ne peut pas y retourner.
L'homme sauvage, la fameuse mythe de Rousseau dit que l'homme sauvage, l'homme naturel.
C'est ça. Oui. Mais Rousseau n'a jamais voulu retourner à ça. Il dit que c'est impossible d'y retourner. Mais il aimait ça. Il va dire que finalement, c'est ça. On peut pas, le progrès n'a pas amélioré les mœurs. Cependant, il va proposer une réforme de l'éducation, dans les milles particulièrement, qui s'inscrit beaucoup dans l'idée des Lumières parce que c'est assez novateur, en fait, voire révolutionnaire. Parce que l'idée centrale de son éducation est basée sur la liberté.
Oui.
L'éducateur n'a presque rien à dire à l'enfant. Il faut laisser l'enfant se désirer par lui-même pour qu'il soit corrompu par la société, etc. Des idées qui aujourd'hui seraient un peu rejetées par les éducateurs, mais qui sont quand même intéressantes puis ont un point révolutionnaire. C'était pas... si on pense à l'époque, là, c'était assez sévère. Là. La religion, c'était géré par l'éducation, pardon, c'était géré justement par la religion. Finalement, Rousseau s'inscrit foncièrement dans l'idée des Lumières lorsqu'il propose un modèle politique et de société fondé sur l'homme et sa nature, et non plus sur Dieu ou sur d'autres choses.
C'est le contrat social, ça, à ce moment-là?
C'est le contrat social, c'est ça. Il s'inscrit dans les théories contractualistes où l'homme doit accepter lui-même la légitime répression de l'État, etc. Versus un autoritarisme de droit divin où la répression de l'État est considérée comme provenant de Dieu et légitimée par Dieu, etc.
Oui,
il faut dire aussi que Rousseau est un adepte de ce qu'on appelle la religion naturelle, c'est-à-dire une religion qui est raisonnable. On retrouve le même thème chez Kant qui fait un texte sur la religion à l'intérieur des limites de la raison. Donc, c'est encore dans l'esprit des Lumières. Et évidemment, il y a tout le contrat social qui est tout à fait... qui va dans le sens de la liberté politique et une nouvelle définition de ce qu'est la légitimité politique aussi.
Donc, il y a une partie de ces idées qui appartiendraient aux Lumières, mais il y a une partie de ces idées qui divergent.
Oui, tout à fait. Et c'est ce qui a amené la division entre Rousseau et les encyclopédistes et Voltaire notamment aussi.
On va terminer avec le dernier volet parce qu'il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce que les Lumières ont encore une influence sur notre époque? Moi, je dirais oui, mais je vais vous laisser répondre, Adrien.
En fait, les Lumières ont beaucoup influencé le 19e siècle. Tout l'esprit républicain français vient en grande partie des Lumières. La franc-maçonnerie, qui au 18e siècle est athéiste, est devenue une franc-maçonnerie athée au 19e siècle et a joué un grand rôle politique, notamment à l'époque de la Troisième République. Il faut dire que le scientiste du 19e siècle, avec Auguste Comte, Renan, Taine, c'est une forme de pensée qui vient aussi des Lumières. Les Lumières ont été revendiquées aussi par les gens de gauche, par les marxistes, entre autres.
Ah oui?
Et on note en...
Les marxistes se sont réclamés des Lumières.
Oui, ils se sont réclamés des Lumières et comme étant quelque chose qui les annonçait eux-mêmes, bien qu'eux-mêmes n'étaient pas si lumineux par ailleurs.
Dominique, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur l'influence des Lumières sur notre...
Je ne vais pas critiquer la dernière remarque de mon collègue, mais...
sur le contemporain.
En fait, c'est certain que d'un point de vue historique aussi, il y a un problème. Les Lumières ont souvent été enseignées dans les écoles comme la fondation de l'époque contemporaine, de l'époque moderne, etc.
Oui, oui, oui.
Comme quelque chose d'idéal.
Mais c'est comme si on retrouve quand même là les idées qui sont la base.
Raison, progrès, liberté, oui, tolérance, etc. Oui, oui. Mais c'est surtout, on voit de nos jours que de plus en plus ces idées-là sortent des écoles. On a un désengagement des intellectuels. L'intellectuel est sorti de la sphère d'influence publique. Le monde n'est plus axé sur les intellectuels. Avant, les intellectuels un peu dominaient la sphère publique. Déjà, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on voulait avoir sur la place publique l'opinion d'un spécialiste, on va avoir un intellectuel. Aujourd'hui, on va voir un économiste. Donc, on voit un peu la décadence, là, quelque part.
C'est une décadence, peut-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Adrien. Ça termine notre bloc thématique sur les Lumières. On espère que ça va vous avoir un petit peu éclairé sur la question. On va maintenant passer à la partie artistique de l'émission. On va écouter une très belle pièce, une chanson de Félix Leclerc qui s'appelle « Le chant d'un patriote » interprétée par les Charbonniers de l'Enfer. Et on revient avec le Festival de contes avec Yolaine.
Demain, je pars pour la guerre avec mon grand chien qui aboie. Des cailloux pleins, ma gibecière et à mon côté gauche le droit. Je vais tuer sa majesté qui dit ma tante, qui dit m'aimer. 100 fois par jour, elle me trahit. On doit mourir quand on trahit. Je suis seul à mon équipage. Les gens d'ici sont peu violents, parce qu'ils ont viande sous la dent et ventre plein n'a pas de rage. J'ai dans mon sac 45 tours, chansons lassées, magie vautour. Je me prépare à cette guerre depuis l'esclavage de mon père. Mes généraux sont des rivières et mon état-major me vend. C'est lui qui me tient au courant des mauvais coups qu'on va me faire. Majesté, je suis devant vous, sujet sans terre et sans abri. Vos étrangers nous ont tout pris, j'ai l'homme au point, défendez-vous. Avant d'atteindre la colline, on a crié feu, vas-y. On m'aura fait piller les chines, je suis un con dans ce pays. En même temps, suis un géant, le bandit géant soumis, qui a dormi et dort encore, en pourtant le petit. Et si demain, mais dans les fers, vous me rejetez à l'exil, quelqu'un viendra finir ma guerre, peut-être votre fils, ainsi soit-il. Et si demain, mais dans les fers, vous me rejetez à l'exil, quelqu'un viendra gagner ma guerre, peut-être votre fils. Ainsi faut-il.
Alors, on est de retour avec Yolaine. Bonjour, Yolaine. Donc, tu viens de nous présenter aujourd'hui un festival de contes qui débute donc mercredi à Québec.
Oui, c'est très bientôt.
Et qui s'appelle « De la parole au conte ».
Oui, voilà.
Et qu'est-ce que c'est?
En fait, on a plutôt tendance à appeler ça un événement parce que ça donnerait sinon un très, très, très petit festival que 5 jours. On est plutôt habitué au festival de plus d'une semaine, surtout à Québec et Montréal. Okay. Alors, on a tendance à dire peut-être événement de conte. Quoique, la langue nous fourche assez souvent toute l'équipe, puis on tombe dans le festival. On est un peu sur la ligne avec nos 5 jours d'événement. En fait, ce qu'on tente de faire, c'est de rassembler dans 5 jours, de plonger dans l'univers du conte avec des conteurs et conteuses qui ont des styles différents les uns des autres.
Okay.
Alors, on veut faire un tour avec le public et avec les conteurs de ce genre de rencontre de paroles contées.
Et ça va avoir lieu où?
Ça va avoir lieu, tous les spectacles seront au Voûte de la Maison Chevalier, à l'exception du concours de menterie qui va être pour la 4e année consécutive au Bar Le Sacrilège.
C'est où les voûtes de la maison Chevalier?
C'est juste en face de la traverse vers Lévis, en fait, okay. sur le boulevard Champlain. Et puis, comme il y a plusieurs portes, c'est une très grande maison, il y aura des indications pour l'entrée du festival ou de l'événement.
OK. Est-ce que c'est dans le coin du Musée de la civilisation, à ce moment-là?
C'est un petit peu plus loin, en fait, quand on arrive du boulevard Charest et qu'on prend, qu'on s'enligne sur Dalhousie vers okay. la traverse, on se retrouve sur le boulevard Champlain et c'est vraiment dans le tournant. Donc, d'un côté, on a l'entrée de la traverse et de l'autre côté du boulevard, on a l'entrée des voûtes.
Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu de la programmation? Quels sont les conteurs qui vont être là?
Bien sûr. Alors, mercredi, quand on va débuter, c'est le Panorama du conte. C'est un spectacle qui a été créé pour les étudiants de théâtre du Cégep de Limoilou et qui est ouvert au grand public. L'objectif de ce spectacle, c'est de faire un panorama, donc de visiter toutes sortes d'univers avec deux conteurs qui seront contrastés. Donc, une conteuse et un conteur, en fait, Lucie Bisson et Éric Gauthier.
OK.
Alors, on débute avec le panorama. On va poursuivre jeudi soir. Les spectacles en soirée sont à 20h. Donc, et le jeudi soir, ce sera la semaine des 4 jeudis où on continue avec Lucie Bisson, Éric Gauthier et François Deveau. Et c'est une carte blanche à trois conteurs. Et il y en a deux qui me gardent la surprise, Lucie Bisson et François Deveau. Je ne peux pas parler de leur conte, mais Éric Gauthier, lui, m'a annoncé un conte, un conte contemporain qui se passe en Abitibi, qui est la région d'où vient Éric Gauthier.
Okay.
Et puis, c'est l'histoire d'un ours qui décide de ne pas hiberner et de passer l'hiver en ville en s'intégrant à la clientèle d'un casse-croûte.
C'est très tentant, ça!
Ça promet! Ensuite, on va continuer vendredi. Alors, on a décidé de mettre la relève conteuse à l'honneur, la relève qui peut avoir tous les âges en compte. Et puis, ben, on se ramasse de toute façon avec des petites jeunesses. Finalement, c'est eux autres qui se sont inscrits à ce spectacle-là. Ça va être deux conteuses et un conteur qui vont nous parler, nous sortir leur répertoire tout neuf. Okay. Ils sont très contrastés eux aussi entre eux, des styles très différents. Mathieu Lamanin-Hamelin qui a un style plus très poétique, en fait. Il vient de Pintendre et il va nous faire sa version de l'histoire de Pintendre, la création de ce village-là. Il y a Amélie Bernatchez qui va nous faire un conte amérindien, mais une version très particulière elle aussi, et elle va nous expliquer d'où vient sa propre version, comment ça se fait. Ensuite, on a Gabrielle Harrison qui, elle, va faire deux contes et elle est dans un style, elle aussi, un type de poésie, mais un style peut-être plus... je dirais, ça a une petite tendance spirituelle. Mmh. Donc, des contes de réflexion un peu philosophiques. Ça va être une soirée aussi très intéressante qui va être suivie, en fait, après le 5 à 7 de la relève. Ça va être suivi d'une autre soirée où les deux gagnants du concours de menterie de l'année dernière, Éric Michaud et Michel Deschênes, vont rencontrer Geneviève Marié, que moi, j'appelle la façonneuse de vérité. Parce que Geneviève, je l'ai déjà entendu dire qu'elle compte pour la partie du monde qui veut guérir.
OK, oh!
Alors, j'ai trouvé ça très chouette. Une rencontre entre deux menteurs professionnels et une façonneuse de vérité. Et ça va être animé par Yoda Lefebvre, qui est passablement déjanté. Alors, ça devrait être une excellente soirée, ça aussi. On va continuer samedi avec le concours de menterie, donc samedi après-midi à 14h.
C'est la quatrième année?
Oui, quatrième édition de l'Amicale des arracheurs et arracheuses de dents de Québec. Donc, l'objectif, finalement, pour les conteurs et conteuses qui s'inscrivent, c'est de convaincre les juges et le public qu'ils ont la meilleure menterie. La menterie étant un récit de vie exagéré, donc un conte qui se fait au jeu. On essaie de convaincre d'une histoire qui nous serait supposément arrivée. Cette année, on a Éric Michaud, le gagnant de l'an dernier, qui va faire un hors-concours puisqu'il a déjà gagné. Et comme je serai intronisée dans la confrérie des menteurs du Québec, je ferai ma première menterie.
Ah, on a bien hâte d'entendre ça.
J'aurai l'honneur de Michel Deschênes va se représenter. Il y a toutes sortes de conteurs, conteuses qui vont aussi, des nouveaux qu'on n'avait pas encore vus dans nos événements aux Amis imaginaires qui seront là. Et puis, on va poursuivre au Voûte de la Maison Chevalier à 20h. On retourne au Voûte dans le Vieux-Québec pour Triumvirat, qui est le spectacle, le trio des membres fondateurs de la confrérie des menteurs. Alors, ils vont raconter des aventures imaginaires, une compétition pour les yeux d'une jolie demoiselle, avec toutes sortes de personnages qu'ils auraient dû affronter. On va poursuivre ensuite dimanche après-midi, toujours au Voûte à 14h. Ça va être le spectacle jeunesse pour les 6 à 12 ans avec François Deveau. C'est un pirate à la retraite qui va raconter la mer, sa création, la vie de la mer. Les jeunes auront même l'occasion d'apprendre des exercices de matelot, des objets qu'il y a sur les bateaux et l'utilité qu'ils ont. Et en soirée, on reste dans le thème maritime parce que ça va être la clôture de l'événement avec la soirée des conteurs Madelineau.
Oh oui.
Les Madelineau qui sont en tournée présentement sur la Grande Terre. Alors, ils vont terminer dans la vieille capitale et ils vont nous faire leur spectacle, leur conte des îles de la Madeleine, des racines en mer.
C'est une programmation qui me semble axée sur la diversité. Et l'événement est organisé par l'organisme Les Amis Imaginaires.
Oui.
Est-ce que l'organisme mise sur cette... Est-ce que c'est un trait de l'organisme, la diversité?
Oui, exactement. C'est un trait de l'organisme. En fait, ce qu'on veut faire, c'est montrer, donner l'occasion au public de découvrir toutes sortes de styles et de manières de porter la parole, de porter le conte et de renouveler le patrimoine. Parce qu'évidemment, le conte étant une parole vivante, les gens qui la portent la renouvellent à chaque fois. Et puis, la renouvelle avec le public, selon les réactions qu'on a dans la salle, selon comment les gens sont, à ce moment-là, ça façonne aussi une soirée de conte.
Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'organisme Les Amis Imaginaires? C'est un organisme de distribution de spectacles?
En fait, oui. On a décidé de passer au mode de diffusion en salle de spectacle, d'ailleurs, depuis l'année dernière. En fait, Les Amis Imaginaires se sont promenés un peu partout dans Québec. On allait à la rencontre du public, autrement dit, dans des cafés, ici, à la librairie Saint-Jean. Jean-Baptiste, oui. On a fait des comptes parce qu'on allait où le public était. Le désavantage, je dirais, de cette version-là, de ce mode de diffusion, c'est que l'ambiance n'est pas toujours à son meilleur pour l'écoute.
Oui.
Alors, pour bien faire vivre les comptes, pour leur donner une place, la place, je dirais, qui leur revient, avec la magnificence que ça peut prendre, ça prend une ambiance tout à fait calme et spécifique.
Oui, ça aide beaucoup.
Voilà, avec une ambiance propice à l'écoute. Parce que, en fait, c'est pas toujours calme, une ambiance de veillée de compte. Et puis, on a décidé de passer au mode en salle de spectacle, tout simplement pour rassembler des gens qui se déplaçaient spécifiquement pour profiter de l'écoute des contes.
Bien, merci. Est-ce que tu peux dire aux gens qui seraient intéressés d'aller au compte où est-ce qu'ils peuvent se procurer des billets?
Oui, les billets sont en prévente sur le site Internet, donc www.lesamisimaginaires.ca. Les billets, il y a un laissez-passer pour tout l'événement qui est disponible. Bien. Il y a aussi des billets à l'unité. Donc, on va dans l'onglet spectacle et on choisit son spectacle. On peut cliquer, acheter son billet en prévente. Et si on désire tout simplement choisir à la dernière minute, selon l'envie du moment, on peut tout simplement se procurer des billets à la porte. Les portes de la salle ouvrent 45 à 60 minutes avant le début des spectacles et on peut se procurer les billets à ce moment-là aussi.
Bien, merci beaucoup, Yalène. On encourage les amateurs de contes d'aller vous rencontrer.
Oui, tout à fait. Merci.
On va maintenant s'entretenir avec un poète punk, un habitué de la librairie, qui a choisi pour nous une pièce de The Casualties qui s'intitule « Punk Rock Love ». C'était The Casualties. Ça nous met dans toute une autre ambiance, Edmé.
Bon.
Bonjour, Edmé.
Bonjour.
Alors, Edmé, tu viens nous parler ce soir. Tu es en train de travailler sur un nouveau recueil de poèmes.
Ouais, ça s'appelle Amour cardiaque, viandes hachées et autres tendresses. C'est mon sixième.
C'est ça, c'est ton sixième recueil.
C'est mon sixième florilège de poésie et dessin. Ça fait que dessin, ça à la plume et à langue de Chine. Et poésie toujours publiée sous forme manuscrite. Là.
Oui. Et est-ce qu'il y a eu. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ce recueil-là? Souvent, c'est la société, c'est les problèmes que les gens vivent ou c'est l'amour.
Ben c'est. Moi, il y a pas mal d'affaires qui m'inspirent, mais mes inspirations sont pas mal tout le temps un peu. Reviennent un peu d'un livre à l'autre. Là. Je m'inspire beaucoup, dans le fond, de la pensée utopiste, puis dans le fond, ces applications concrètes dans le quotidien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour, disons, un poète? Sinon, ben je m'inspire un peu de la politique, puis de sa noirceur, là, en tout cas,
la condition sociale des gens qui sont aussi sans ressources.
La politique, là, c'est un peu un mot large. Là. C'est plus, dans le fond, je m'intéresse plus, dans le fond, aux luttes des opprimés, des gens, dans le fond, qui subissent les contre-coups là, d'un système qui n'est pas fait pour tout le monde, qui est fait juste pour... dans le fond, pour faire la palette au final. Là, c'est que dans le fond, moi, dans le fond...
Tu dirais-tu que c'est aussi pour défendre les gens qui choisissent la marginalité?
Ben, je sais pas si c'est pour... Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas si c'est une manière de le dire. Je l'aurais pas dit de même, mais je disais, moi, c'est sûr, personnellement, j'ai fait des choix de vie marginales, autant en tant que poète. Comme tu dis, en fond, je suis un poète punk, mais c'est sûr, en fond, je m'intéresse passionnément à cette culture-là, tu sais.
Oui.
Mais c'est ça, tu sais, j'ai fait des choix de vie marginales. C'est pas vraiment pour faire une éloge de la marginalité, tant que... Je sais pas, moi, c'est la beauté qui m'inspire, la beauté sous toutes ses formes. La poésie, c'est mon meilleur sujet de poésie, tu sais.
Oui.
C'est moi, ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est un peu le... Tout ce qui peut ressortir de positif et de créatif de la tragédie dans laquelle on est plongé présentement, là, puis qui a pas l'air d'être parti pour bien se finir, là.
Ouais.
Fait que tant qu'à ça, ben, on va écrire un peu de poèmes pour rendre ça un peu plus beau, là.
Ben, écoute, je pense que la meilleure manière de le comprendre, c'est de l'écouter. Est-ce que tu avais l'intention de nous en lire quelques-uns?
Ouais, c'est ça. Juste pour mentionner, justement, quand je lise, tu disais, en fond, qu'est-ce qui m'inspire aussi?
Ben, oui.
Je trouve que c'est mon recueil le plus complet, celui-là que je suis en train de préparer. Je vais sortir d'ici l'hiver ou le printemps prochain.
OK, il est pas prêt, là?
Non, il est prêt. Les textes sont finis, les dessins sont pas finis.
Okay.
La mise au propre n'est pas finie, la mise en page n'est pas finie, tout ça.
OK.
Mais en fond, c'est ça. Mais dans lequel je m'inspire autant de l'amour, dans le fond, qui m'est tombé comme une grosse tonne d'amour sur la gueule dernièrement. Puis, dans le fond, autant que de la politique ou que de choses, de sujets un peu plus sombres, dans le fond.
Oui. Donc, il y a des choses lumineuses, puis il y a des choses sombres.
Ben, c'est ça. Puis, il y a un petit équilibre en toutes ces affaires-là. Là. Ça sera à vous de le trouver si ça vous tente de le lire. OK. Alors, on va y aller avec quelques poèmes. Un tout petit ici. La caresse sombre du salut. La lyre mange une volée dans le bardeau du coffre arrière du char. Le désordre nerveux est souvent causé par la suppuration fraîche de la solitude. Et l'indicible est une valeur sûre lorsqu'un curé saccage quelques offres syndicaux avant de sombrer comme la lumière du soleil dans noirceur des nuits de tendresse éternelle, amour anarchie. Alors un autre. Il arrive aussi à Dieu de vomir. Il faut briser la potence avec fureur et cultiver des kystes cancéreux bénis sur nos corps meurtris dans l'offrande amoureuse qui gît comme nos vies, comme la lumière du jour tachée par le sang frais à chaque souffle encore de cette poésie aussi belle que malade. Il va falloir organiser des cargaisons massives de bâches de résidus et de poils cervicaux du grand public pour féliciter le ministère du narcissisme, des flics et de l'armée qui s'est une fois de plus crossé dans nos faces avant de nous enlever le pain de la gueule pour acheter des guns et des armes moisies. Il arrive à Dieu souvent de vomir ou de pleurer. Alors, ça finit ça. Pour finir ça, on a le temps dans un petit dernier. Ouais.
Oui, on a le temps.
Voilà, alors un poème d'amour ici, le tout premier, celui qui va ouvrir le recueil, qui est dédié à Stéphanie, mon amoureuse. Alors, je suis un échec social et je demande ta main. Tu es belle, comme au premier matin de l'anarchie. C'est ta dentelle qui soigne le jour, avec la souffrance de la douceur, offerte comme un désir sur l'aube qui tressaille. Ton éternité sent bon, primitive comme la raison qui enivre les foules, J'aimerais être ton alcool de rose et accoucher de caresses aussi vieilles que ton âme, alors même que Dieu frémit comme un corps, dispersant l'incontenable offrande de nos baisers qui brûlent, assaillant nos âmes qui se consument par l'univers, la nuit et le sacrifice, lorsqu'une tonne de siècles perdus se rompent sur notre étreinte où vient ressusciter la Christ. Merci.
Merci, Edmé. J'avoue que tu me déstabilises un petit peu, là, parce que j'avais l'habitude d'entendre des poésies beaucoup plus trash que ça de ta part. Et ce soir, tu me fais des choses qui sont beaucoup plus douces.
Oh, je sais pas, quand même, le deuxième poème...
Parle dans le micro.
Même, le deuxième poème était quand même, je
plus,
sais pas,
oui,
celui,
plus,
il arrive
plus
aussi
agressif,
à Dieu de vomir, mais... peut-être plus, ouais, plus révolté, je sais pas.
Ouais.
C'est ça, là, on a pas mal donné dans la variété, là. C'est pas mal l'inspiration de que le bon Dieu m'envoie qui a donné ça.
Tu vas les présenter, l'ensemble de ton recueil, lors d'un spectacle?
Oui, oui, c'est
à
ça.
À la librairie?
23 novembre, samedi 23 novembre, à la librairie Saint-Jean-Baptiste, 19h, 7h du soir. Ça s'appelle « Edmé Étienne chante l'amour et l'eau fraîche, récital de poésie trash ». Dans le fond, il va y avoir Stéphanie Lapointe, mon amoureuse, qui va faire la première partie avec ses poèmes.
Ah, elle fait de la poésie, elle aussi.
Oui, elle est poète aussi.
D'accord.
Et puis c'est ça, c'est dans le fond. Puis le récital, là, ça va être constitué de mes 46 derniers poèmes, qui sont aussi la totalité des textes de mon nouveau livre, là. Ça, Amour cardiaque, viande hachée et autres tendresses. Fait que c'est pas mal ça, là.
Merci beaucoup, Edmé.
Yes.
Je vais laisser le mot de la fin à notre libraire David, qu'on n'a pas beaucoup entendu ce soir.
Mais non, je n'avais qu'une citation ce soir et qui fit, pardonnez-moi l'expression, qui fit avec le nouveau contrat asocial de notre époque. Alors, c'était... oh, pardon, je me suis trompé dans les mots. Alors, c'était plutôt une citation éponyme de la Genèse, tiens, qui sera tout simplement « Fiat lux, que vienne la lumière ». Et si je peux ajouter une petite modification, « Fiat lux, pereat mundus ». Alors, voilà, merci.
Il faut nous traduire, là.
Ah, « Que vienne la lumière ou que le monde périsse ».
Oh, mais c'est triste,
voilà.
Ça.
Ah oui, c'est l'époque. Alors, merci et bon résultat d'élection.
Oh, merci, David. Alors, il nous reste un petit peu de temps. Je vais conclure en parlant de quelques autres événements qui vont avoir lieu à la librairie ce mois-ci. D'abord, il y a le 15 novembre. À 19h, il va y avoir une autre soirée de poésie, à part celle de Ennemi qui nous a été présentée tout à l'heure. Donc, c'est un vendredi. Et c'est avec Jean Coulombe et ses invités. Et ensuite, le 22 novembre, il va y avoir une conférence psychanalytique sur la sexualité et Freud. Alors, pour ceux qui connaissent peu Freud, s'il y en a encore, ben, je pense que ça pourrait être extrêmement intéressant. C'est donné par Sébastien Lamarre, qui est lui-même psychiatre. Et finalement, le 29 novembre, donc en formule 5 à 7, ça risque d'être très intéressant. C'est le lancement de livrets de nouvelles poétiques par une jeune femme très intéressante qui s'appelle Alice Guéricola-Gagné. qui va venir nous présenter. Donc, il va venir faire le lancement de ces livrets en formule 5 à 7. Alors, voilà, c'est ce qui termine notre émission ce soir. Je remercie mes invités, Simon Richard, astrophysicien, Dominique Morin, étudiant en philosophie, Adrien Dugas, libraire, Yolaine Carrier, conteuse et Edmé Étienne, poète punk. Je remercie mon équipe, David, notre hôte à la librairie, Anaël à la mise en onde et Bic Nick, producteur de l'émission et fondateur de Radio Fiat Lux. Et bien sûr, merci à CKIA et à nos auditeurs. La semaine prochaine, il sera question d'espionnage. C'était La Voix de la librairie, Québec.